Donc moi je m'appelle Alexandra Spies, je suis thérapeute de famille, éducatrice spécialisée de formation de base. Je suis responsable d'Astram. Et ici, eh bien, on accueille des familles qui traversent un bouleversement, comme ça, une étape de vie. Parce que dans une famille, a priori, quand il y a un événement important qui touche un des membres de la famille, c'est évidemment un écho, et avec des retentissements qui vont être très différents chez les uns et chez les autres. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la notion d'attachement, c'est-à-dire dès lors qu'on est attaché à une personne, évidemment que s'il lui arrive quelque chose, on va avoir ce réflexe, en fait, centré un peu sur soi, c'est « ai-je bien fait les choses ?» et « est-ce que j'ai une responsabilité dans ce qui se passe ?» Un peu cette recherche du pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et ben, cette recherche du pourquoi, alors qu'il va en même temps être aussi utile parfois parce qu'il met à distance le processus émotionnel. Telle émotion serait trop, si vous voulez, ravageuse. Donc, on a un certain mécanisme qui va se mettre en place, qui va nous protéger temporairement. Mais néanmoins, dans la quête du pourquoi, évidemment, qu'il y a aussi cette recherche d'une éventuelle responsabilité de notre propre, de nous. Alors, c'est vrai que dans le cas, je pense, tant de la maladie psychique que dans le cas du suicide, ça fait tellement vivre aux proches, c'est tellement d'impuissance, de confusion. Bah, effectivement, ça peut faire émerger comme ça cette idée qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a le sentiment de ne pas avoir perçu le degré de souffrance, ou en tout cas les solutions qui étaient envisagées pour l'apaiser, avec une connotation, en tout cas une idée, parfois un peu de toute puissance, parce que c'est un peu que cette idée qu'on aurait pu contrôler les choses. Après, j'ai quand même envie de dire que chaque deuil est unique, chaque personne est unique. Il y a aussi parfois des situations où les personnes n'éprouvent pas ou très peu de culpabilité. Je pense notamment à des personnes proches qui ont été confrontées à de nombreuses tentatives, qui ont vécu de plusieurs années, voire décennies parfois, auprès d'une personne qui est en souffrance, il peut y avoir aussi l'idée, à un moment donné, de soulagement. Et puis, parfois, la réponse à la culpabilité, c'est que parfois, on se punit soi-même. Il y a des personnes qui vont pas forcément l'exprimer, mais chez qui on va voir, par exemple, ils vont se censurer beaucoup à vivre, à revivre, ou à aller vers l'avant, à faire des projets. Donc, on s'autorise plus à rire, mais j'ai pas le droit en fait, moi j'ai pas le droit de rire alors que je viens de traverser une épreuve douloureuse, et puis ça ramène à ce que l'autre vivait aussi comme souffrance. Mais nous, on part vraiment du principe que toutes les familles, elles ont des compétences pour s'auto-guérir quelque part, et quand ça marche pas, c'est que ces compétences sont un peu congelées, elles sont un peu comme ça grippées. Nous, notre travail, c'est un peu de réactiver ça. Maintenant, c'est important de faire dialoguer parce que c'est ce qui permet de pas inscrire comme un traumatisme. Après, un événement traumatique qui est élaboré, qui est discuté, qui est, en guillemets, traité, c'est un événement qui, on l'espère en tout cas, ne sera pas potentiellement un espèce de fantôme dans le placard qui ressortira deux générations plus tard. C'est-à-dire, ce qui fait des fois traumatisme, c'est aussi le silence avec lequel on enrobe en fait ces événements. Je dirais, voilà, first step, c'est vraiment, quelle que soit la situation, si on est proche de quelqu'un qu'on perçoit, soit de plus en retrait, soit de plus renfermé, etc., c'est quand même de tendre des perches, ne pas faire comme si je vois pas. La personne, elle doit pouvoir faire l'expérience, idéalement, que ce qu'elle a à dire, c'est entendable. Si quand elle raconte ce qu'elle vit, en fait, en face d'elle, elle a une personne qui se rigidifie, qui envoie quelque part le signal qu'elle peut pas entendre ce que l'autre a à dire, ça peut avoir des effets terribles, c'est-à-dire que la personne peut se taire à jamais. Il y a des gens qui font une expérience comme ça, c'est-à-dire qui ont le sentiment que ce qu'ils disent est tellement effrayant qu'ils se taisent après. Donc, permettre à la personne d'identifier ce sentiment, de le reconnaître, et puis une fois que la personne a pu l'identifier, c'est de l'aider à exprimer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vous fait cette émotion, qu'est-ce qu'elle vous fait faire, l'accueillir quelque part comme un phénomène sain et normal, sans un peu tentative, je dirais, basique de consolation, c'est-à-dire « mais non, ça va aller quand l'autre a de la peine à exprimer son besoin, vous voyez, quand tu dis « mais de quoi t'aurais besoin, moi je sais pas ben, », c'est de dire ben, « je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe, par exemple, tu penses, pour que tu te sentes mieux ?» Donc c'est de voir quelles seraient les voies d'apaisement. Il y a des personnes pour qui des choses très concrètes, par exemple, les rituels les plus classiques, ça peut être faire le gâteau que maman adorait, puis mettre les musiques qu'elle aimait bien, et puis on fait ça pendant 1 heure, et puis on parle d'elle, on pense à elle, puis l'évocation, se souvenir de l'autre, parler de l'autre, est quand même quelque chose qui a tendance à faire un bout baisser la culpabilité. Il y a des personnes qui parfois s'investissent aussi dans des causes. Puis il y a des personnes, ça va beaucoup passer par des voies très cérébrales, très philosophiques, parfois même d'instaurer un dialogue avec le mort, c'est-à-dire, mais s'il savait à quel point vous vous reprochez par exemple ça, vous imaginez qu'il dirait quoi? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous accrocher à cette idée? Est-ce que c'est une manière d'être en lien? Parce que c'est aussi ça la culpabilité, c'est aussi une manière de rester en lien avec l'autre, comme un cadeau relationnel. C'est très étrange de dire ça comme ça, parce qu'en même temps c'est un sentiment qui peut être vécu comme ça, comme très empoisonnant. Mais il y a d'autres manières, j'ai envie de dire, de recadrer ce sentiment pour peut-être lui permettre d'être légitimé d'une manière plus douce, plus positive, plus... Ce qui est propre à la perte, si vous voulez, c'est que d'une relation qui était comme ça extérieure, on va petit à petit intérioriser la relation. L'autre, il vient un peu comme un guide intérieur, c'est-à-dire on pense à lui, à elle, et puis tout à coup on sait ce qu'il nous dirait. Donc recourir aussi à cette capacité qu'a la personne de faire vivre ce dialogue-là. Et puis aussi, quelle narrative on met autour de ce qu'on ressent. En fait, quand je dis la narrative, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte. Donc c'est comment on peut épaissir le récit, remettre de l'alternative, parce que la perte, elle amène un non-choix qui est terrible à vivre. Ça impose comme ça, c'est d'une violence inouïe. Donc quelque part, de remettre du choix, de redonner des alternatives, pour redonner à la personne la capacité de choisir un peu, choisir, c'est pas un supermarché, hein, mais je veux dire de mettre à l'intérieur d'elle une narrative qui soit plus douce. Donc, essayer ensemble justement d'aller viser un peu des voies d'exploration, des voies de soulagement, de réfléchir, parce que c'est là où chaque personne est unique, c'est que ce qui va marcher avec quelqu'un va pas forcément marcher avec quelqu'un d'autre. Donc, un peu, j'ai envie de dire, à chacun un peu de trouver sa voie. Nous, on est surtout là pour essayer de favoriser l'expression autour de ce sentiment-là, parce que ce sentiment de culpabilité, on doit en prendre soin.